Vous écoutez Positive Changemakers, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui créent dans l'impact positif. Oui, mesdames et messieurs, celles et ceux, mais qui ne font pas que rêver d'un monde meilleur, mais qui le construisent au quotidien à travers leurs initiatives. C'est cela l'esprit Positive Changemakers. Vous retrouverez évidemment ce podcast et tous les autres épisodes sur votre plateforme de streaming préférée et bien entendu sur notre site www.positivechangemakers.be. Bienvenue et bonne écoute!
Alors, on a commencé avec 5 artistes, on les connaissait tous. Okay. C'est des artistes dont on avait déjà acheté des œuvres, nous, personnellement. En fait, on a lancé en une semaine de temps. Donc, on a créé un Instagram, on a mis, des photos, des trucs sur notre Instagram, on a fait notre logo, et puis on a contacté ces artistes. Et en fait, en une semaine de temps, Demain a été lancé. On est très instinctives, en fait, Diane et moi. Quand on aime quelque chose, on le fait et on préfère faire des choses à 80% que les faire à 100% et trop tard. Je trouve que l'art porte un regard sur le monde. Je trouve que l'art est vraiment une réflexion de ce qu'on vit. Les artistes sont en fait très précurseurs de ce qui se passe dans le monde. Ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Je pense qu'il faut aussi avoir cette sensibilité envers l'art. Et c'est pas pour tout le monde, et tout le monde ne doit pas aimer l'art. C'est comme tout le monde n'aime pas boire un bon verre de vin.
Pour ce 14e épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Florence Derck derrière le micro. Une jeune entrepreneuse de 30 ans, pétillante d'énergie, mais surtout passionnée par l'art. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment sa passion a fini par la rattraper alors qu'elle se destinait, à la base, à une carrière « sérieuse » entre guillemets, dans le milieu bancaire notamment. Un entretien d'embauche à Bâle, en Suisse, avec Barbara Gladstone, une très célèbre marchande d'art américaine, viendra donner un bon coup de pouce à sa carrière. Fondatrice de la plateforme Demain Art, ensemble avec Diane Van Impe, Florence nous partage tout au long de cet épisode également sa vision sur le rôle de l'art dans nos sociétés et sur l'importance de soutenir et accompagner les jeunes artistes émergents dans leur travail. Alors, vous êtes prêts à vous laisser inspirer? Alors on y va, andiamo! Alors bonjour Florence. Alors Florence, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast de Positive Changemakers pour déjà le 14e épisode. Et oui, alors tu es également le 8e et dernier de cette deuxième saison. Je ne suis pas encore décidé de savoir si je vais continuer à compter les épisodes de 14, 15, 16 ou si à chaque fois je recommence à zéro. En tout cas, ce qui compte, c'est que tu es la dernière, mais pas des moindres, de cette saison-ci. Et je me réjouis parce qu'on va parler d'un sujet, notamment en tout cas, dont je t'avoue Florence, je te l'ai déjà dit avant de commencer le podcast, dont je ne connais vraiment rien, pas grand-chose. En tout cas, je suis quelqu'un qui adore comprendre et donc j'ai envie de comprendre aujourd'hui tout ce que ça implique et ce de quoi je parle en fait, c'est simplement l'art. Et l'art, il est partout. Hein. Donc tout ce qui est artistique, ça nous entoure depuis toujours, mais c'est un sujet tellement fascinant et quand on n'est pas vraiment introduit dans le sujet, souvent, il vaut mieux être modeste et dire, voilà, je n'y connais pas grand-chose et donc j'ai envie aujourd'hui d'aborder avec toi notamment tout cet aspect de l'art et surtout comment l'art peut également peut-être avoir un rôle sociétalement, comment ça peut nous aider à avoir un impact peut-être plus positif par rapport à tous les défis de la société également que nous connaissons. Alors Florence, tu as 30 ans, tu es originaire de Gand, mais tu es parfaitement tuitarlé. On va faire le podcast du coup en français, si tu es ok. Alors tu as toujours été une grande passionnée justement par le monde de l'art, mais tes parents, ils t'ont gentiment fait comprendre quand même quand tu étais plus jeune qu'il fallait mieux faire des études sérieuses, m'as-tu dit. Alors du coup, tu as fait des études très sérieuses d'ingénieur commercial à la KU Leuven et également à la Solvay Brussels School of Economics and Management ici à Bruxelles. Mais on dit que nos passions nous rattrapent toujours et je crois que c'est ton cas également parce qu'après même pas quelques premières expériences dans le milieu bancaire, tu te retrouves finalement, je pense, à ta place, là où tu voulais être. Tu fais tes premières armes chez Christie's, qui est une célèbre maison de vente aux enchères. Et depuis, tu n'as plus quitté le monde de l'art. Tu as accumulé les expériences et tu as même décidé de fonder ta propre entreprise, Demain Art, en plein Covid en plus. Donc Florence, j'ai envie de commencer cet entretien par une première question. C'est quoi Demain Art ?
Bonjour Luigi, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast, c'est vraiment un honneur pour moi. Alors Demain Art, c'est l'histoire de deux femmes qui sont passionnées par l'art contemporain et qui ont envie de rendre l'art contemporain plus accessible. Donc on a lancé une plateforme où on montre des artistes émergents qui ne sont pas encore représentés par une galerie. C'est des artistes basés en Belgique. Le but, c'est que si un client aime bien une œuvre d'art, on l'emmène dans l'atelier d'artiste pour qu'il rencontre l'artiste, pour qu'il y a vraiment une expérience, il y a une émotion. Et que s'il aime bien cette œuvre d'art, il peut directement l'acheter et l'emmener chez lui. Tous les artistes, les prix sont pour la majorité en dessous de 5000 euros. Donc, c'est vraiment assez accessible pour le milieu d'art. Et donc, voilà, c'est que des artistes.
Ouais. Et c'est parti de quel constat, du coup ? Pourquoi créer ça ? Parce qu'effectivement, on ira un peu plus en détail plus loin dans le podcast. Mais donc, les artistes non représentés par des galeries, c'est-à-dire souvent des artistes débutants, c'est ça ? Pourquoi il y avait un trou dans le marché, entre guillemets ?
Oui, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait en fait deux problèmes. D'un côté, il y avait l'artiste qui sortait de l'école et qui faisait des œuvres d'art très intéressantes, mais qui n'avait pas le réseau pour vraiment vendre ses œuvres d'art. L'artiste qui n'était pas encore en galerie, ça prend souvent entre 10 et 15 ans avant que l'artiste trouve une galerie, une représentation fixe. Et entre ce moment-là, il vend parfois des œuvres d'art, mais peut-être pas assez pour s'alimenter. Et d'un autre côté, on avait pas mal de connaissances aussi qui nous demandaient des conseils. Ils avaient acheté, par exemple, leur première maison et ils avaient besoin d'œuvres d'art et ils avaient un budget de 2 ou 3 000 euros. Et donc, ils ne savaient pas où commencer à chercher pour trouver des œuvres d'art de qualité. Et c'est comme ça qu'on a créé Demain Art.
Ok, mais on a hâte d'aller beaucoup plus dans le détail de tout ça un peu plus tard, parce qu'avant ça, évidemment, Florence, tu as eu un parcours, je l'ai vite fait décrit, mais à toi l'honneur d'un peu plus nous partager les moments clés de ton parcours qui font qu'aujourd'hui, effectivement, on se retrouve là à parler notamment de Demain Art. Raconte-nous un petit peu qui est cette Florence qui se cache derrière Demain Art.
Alors, tout a commencé, je pense. Alors, je rêvais quand j'étais plus jeune, je voulais faire des études d'histoire ou d'histoire d'art. Et avec beaucoup de discussions avec mes parents, on a quand même réalisé que c'était peut-être plus intelligent de faire des études un peu plus sérieuses. Et donc, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion à Leuven et puis à Solvay. Et puis, après mes études, j'ai appliqué dans des maisons de vente, mais malheureusement, ma candidature n'était pas retenue. Donc, j'ai été faire des stages en banque d'investissement pendant une petite année.
Attends, si je me permets d'interrompre, donc t'as fait des études sérieuses entre guillemets parce que tes parents disaient voilà, il vaut mieux. Oui. Toi du coup, tu t'es senti comment par rapport à ça ? Tu t'es dit ok ou t'étais un peu frustrée de ne pas faire ce que tu voulais tout de suite ?
Je pense que j'avais pas assez confiance en moi à ce moment-là pour me réaliser qu'avec l'histoire de l'art, en fait, j'aurais pu faire aussi une belle carrière, que c'est des très belles études en effet. Mais après coup, je pense qu'ingénieur de gestion, voilà, j'ai beaucoup appris. Ça fait aussi en sorte qu'aujourd'hui, avec notre entreprise Demain, on arrive à comprendre certaines chose grâce à ces études-là. Donc, voilà.
Ok, et donc malgré ça, donc, tu fais du coup des études et tout de suite, tu essaies quand même de postuler pour des entreprises dans l'art.
Oui.
Ouais, donc ça, c'est dingue. Quoi. Donc tu sors des études, mais tu restes quand même encore fixé sur ton objectif.
Oui, exactement. Okay. Et donc je vois que ça ne marche pas. Donc je fais des stages en banque d'investissement. Et mon dernier stage était chez Deutsche Bank à Amsterdam, où je bossais jusqu'à 1h ou 2h du mat chaque matin. Et je me suis réalisée que ce n'était vraiment pas ma passion. Donc j'ai très en train de lire un article d'une femme qui avait fait toute sa carrière en banque d'investissement et qui à 55 ans avait ouvert sa galerie et elle avait démissionné, ouvert sa galerie et s'était dit voilà, enfin je vis ma passion, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Et j'ai lu cet article et je me suis dit ok, je ne vais pas attendre jusqu'à 55 ans pour continuer dans cette banque d'investissement et je vais vraiment faire le pas vers l'art et comment le faire. Donc, j'ai été débauchée chez Christie's, donc à Amsterdam. Donc, j'ai fait un stage dans le département finance. Et c'est comme ça, en fait, que je suis parvenue à rentrer dans cette maison de vente.
Et incroyable, donc, tu rentrais par la petite porte quand même de tes études.
Voilà. Donc, c'était assez intéressant. Mais très vite, je suis sortie de ce département parce que voilà, j'étais fort intéressée par les autres départements. Et j'étais très motivée. J'avais envie de travailler. Et donc, du coup, j'ai été embauchée chez Christie's à Londres. Dans le département d'art contemporain.
Et donc, tu as été à Londres, du coup, tu as fait quoi ? Un an ou deux encore à Londres à ce moment-là ?
Oui.
Et peut-être juste curiosité aussi, le monde de l'art, une fois que tu rentres dedans, est-ce que ça correspondait à l'image que tu t'en étais faite plutôt ?
Oui, c'est quand même assez... certainement quand on rentre dans ce monde de maison de vente, c'est un monde qui est très fermé, qui est très compliqué, où il y a aussi beaucoup de personnes très privilégiées. Ou, voilà, quand les parents sont collectionneurs, ça aide beaucoup à avoir les beaux puzzles et tout ça. Et donc, moi, ma famille n'est pas collectionneur. Depuis lors, maintenant, ils ont vraiment un intérêt dans l'art. Mais avant, ils ne comprenaient pas du tout d'où venait cette passion. Et donc, oui, j'ai dû travailler quand même un peu plus que les autres. Ça, je pense que oui.
Oui, parce que tes parents, effectivement, n'étaient absolument pas, convaincus par l'intérêt de l'art, entre guillemets. Mm-hmm. Et donc tu as dû toi-même, en fait, suivre ta passion à ce moment-là. Donc, tout doucement, tu rentres donc dans ce monde de l'art. Et puis, tu enchaînes, je pense, une autre expérience professionnelle encore, toujours dans l'art, dans une maison de... dans une galerie.
Dans une galerie, oui. Donc, j'ai démissionné après 2 ans chez Christie's pour... J'avais gagné le fonds Prince Albert.
Donc, mon but, c'était de... Qui est un fonds qui sert,
en fait, à privilégier, en fait, des entreprises belges, à faire un peu l'export de la connaissance belge en dehors de l'Europe. Donc, c'est un projet qui prend 1 an.
Et tu reçois une bourse, du coup, mensuelle, ouais. Okay, ouais, pour pouvoir aller à l'étranger, ouais, et réaliser ton projet.
Voilà, et réaliser le projet de l'entreprise.
D'accord.
Donc voilà, un exemple, c'est par exemple si un Duvel va aller découvrir un nouveau marché, ils vont envoyer quelqu'un du fonds Prince Albert pour aller découvrir par exemple le marché japonais. Et vu que c'est une bourse, c'est beaucoup plus avantageux pour les entreprises. Donc voilà, j'avais cette idée en tête, je suis revenue en Belgique, j'ai pris l'été pour trouver un projet. J'étais en discussion avec certains acteurs du monde de l'art et on m'a débauchée dans la galerie Gladstone, qui est une galerie américaine, pour un poste à Bruxelles comme directrice associée. Et cette histoire est assez marrante, comment ça s'est profilé. Donc c'est le directeur qui m'avait contacté, qui m'avait dit est-ce que tu es à la recherche de travail. Je lui ai dit non, pas vraiment, mais j'ai quand même fait les démarches pour savoir quelle était la prochaine étape. Et il m'a dit la prochaine étape, en fait, c'est d'aller à Art Basel, qui est la grande foire mondialement, dans 3 jours, parce que la grande boss Barbara Gladstone sera là. Okay. Et donc Barbara Gladstone est vraiment, c'est une femme qui a plus que 80 ans, donc c'est vraiment une femme très très importante dans le monde de l'art. Donc, mais moi, j'avais planifié un voyage en Birmanie 4 jours plus tard. Et donc, j'ai appelé mon ami, je lui ai dit, voilà, je serai 3-4 jours plus tard en Birmanie, je dois aller à Bâle rencontrer cette Madame Gladstone. Donc, moi, je prends ma petite voiture, je vais à Bâle.
Tu conduis jusqu'à la Suisse.
Voilà, je conduis jusqu'à la Suisse. Je dors en France parce qu'à Bâle, c'était hors de prix de loger là-bas. Le premier jour, je fais la foire, voilà, elle n'est pas dispo, ok. Le deuxième jour, je fais la foire, elle n'est pas dispo. Je contacte le directeur, je lui dis, voilà, à 14h, je dois repartir pour la Belgique parce que j'ai mon vol à 22h pour la Birmanie. Donc, 14h, je ne peux pas. En une fois, je suis en train de déjeuner, il est midi. Je me dis, ok, je ne vais plus la rencontrer. En une fois, il m'appelle, oui, il faut que tu viennes. Je venais de commander tout au restaurant. Donc, hop, je laisse tomber, je cours. Et j'arrive à la foire pour la rencontrer. J'avais une robe, je n'ai jamais oublié, une robe orange éclatante de couleurs. Barbara déteste les couleurs, elle est toujours habillée en noir.
Et ça, tu le savais pas.
Ça, je savais pas du tout. On m'avait pas du tout briefé. Moi, je me suis dit, je vais mettre une belle petite robe. Donc, j'arrive là-bas. On parle pendant quelques minutes. Elle me dit, ok, je sens que tu as, voilà, une belle énergie. Va faire ton voyage en Birmanie. On se revoit à New York la semaine d'après. Voilà, on t'organise tout et on se voit à New York. Et quand je suis arrivée à New York, en fait, c'était comme si j'avais déjà signé avec eux. J'ai plus vraiment un interview et c'était...
Parce que du coup, tu rencontres Barbara, tu l'as rencontrée combien de temps, cette femme? Un petit quart d'heure?
Cinq minutes.
Et en gros, elle voulait juste sentir l'énergie. Oui. Et t'avais compris que c'était OK pour elle ou
non,
pas?
Non, moi, je pensais qu'on continuait les discussions
à
New York.
Et que... Donc, pour toi, c'était encore un peu flou.
Voilà. Et quand je suis arrivée à New York, tout le monde était là, ah, this is a new employee from Belgium. Et j'étais là, ah oui, OK, d'accord.
Et, on m'a pas prévenue.
Mais ça, c'est des choses que j'adore dans la vie. J'adore quand les choses se passent d'une manière naturelle, spontanée, que c'est pas 10 rounds d'interview, que voilà, dans le monde de l'art, il y a beaucoup de ressentis. C'est pas en banque d'investissement où on doit faire plein d'examens, où on doit... C'est complètement différent. Donc, c'est beaucoup
incroyable.
Plus au feeling.
Ouais. Incroyable. Et t'avais quel âge, là, quand t'as conduit jusque Bâle? T'avais 27 ans?
J'avais 25 ans.
Ouais. 25 ans.
Ouais.
Qu'est-ce qui te traverse à ce moment-là? Tu t'en souviens? Genre, excitation, ouais. Stress, parce que tu dis même pendant 2 jours, elle n'est pas dispo, cette dame. Mm-hmm. J'imagine que le 3e jour, t'es déprimée en mode, je suis venue ici pour rien.
Oui, non, mais je me suis dit, en fait, j'avais jamais fait la foire de Bâle.
Ah ouais.
Donc, pour moi, c'était une expérience incroyable. Je me suis dit, bah... Au moins, c'est une expérience que j'ai en plus dans ma vie. J'ai fait la foire de Bâle, j'ai passé un peu de temps ici. Et c'est, voilà, je trouve que tout, il faut voir, si je ne l'aurais pas rencontré, ben, au moins j'aurais fait cette foire, j'aurais bu plein de belles choses. Et donc voilà. Et donc...
Tu transpires l'optimisme, tu as vraiment ta place derrière le micro. Là, Florence, là, je crois que aussi optimiste, je n'avais pas encore entendu. C'est vrai qu'au moins, tu aurais vu la foire. C'est vrai, voilà. Que c'est une belle philosophie de vie. Et c'est ce qui t'a amené, du coup, aussi à une belle expérience supplémentaire, du coup, chez Gladstone, oui, pendant quelques années. Oui. Et ensuite, le projet de ma art était trop fort pour continuer.
Oui, donc j'ai travaillé pendant 3 ans chez Gladstone. Ça a été une expérience incroyable. J'ai fait pas mal de... Voilà, on a bien développé la galerie. On a fait des belles foires. Donc j'ai énormément aimé ce boulot. Et puis, pendant le confinement, on a donc créé Demain. Parce qu'on sentait qu'il y avait besoin. Je pense que le confinement, pour beaucoup de personnes, a été un temps de réflexion, un temps pour réfléchir. Qu'est-ce qui manque dans le marché? Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Parce que je pense que souvent, quand on est un peu dans le train de vie, on n'a pas le temps de bien réfléchir, de voir ce qui est important. Je pense que Demain est vraiment une idée typique confinement, où chez nous aussi, chez Demain, par exemple, le local est très important. Et ça, c'est vraiment une idée du confinement et comment ajouter quelque chose qui peut bénéficier la société et faire en sorte que...
Et si je peux me permettre, pour ceux qui nous écoutent et qui probablement peut-être connaissent, certains connaîtront, j'espère mieux, s'y connaîtront mieux en art que moi, mais pour ceux qui n'ont aucune idée, tu travailles dans une galerie. Donc là, pour bien comprendre, une galerie représente des artistes, c'est ça? Donc des artistes qui ont déjà été sélectionnés d'une certaine façon et qui sont entre guillemets, qui sont considérés suffisamment bons pour être représentés par la galerie. Ok. Et du coup, concrètement, la galerie, c'est elle qui gère tout ce qui est des expositions, des œuvres d'art, etc., dans les musées, dans des expositions. C'est un intermédiaire en fait entre l'artiste et l'acheteur.
Oui.
Oui. Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle fait d'autre, ou ça se limite à ça ou...
Donc la galerie en fait a différents rôles et il y a aussi différents types de galeries. Donc il y a en fait, quand l'artiste se retrouve dans une galerie, c'est souvent dans une petite galerie. Puis elle va bouger vers une sorte de mid-sized gallery. Et puis les galeries vont aller chez des grandes galeries, dont Gladstone, où les artistes, ça va devenir, on appelle ça des blue chip artists.
Ok, donc, c'est-à-dire des artistes vraiment high level.
Voilà, high level dans des budgets qui sont aussi beaucoup plus élevés. Donc le rôle de la galerie est bien sûr de vendre l'œuvre d'art, c'est d'organiser des expositions de ces artistes et de montrer les artistes dans le meilleur contexte possible pour que l'acheteur soit intéressé, mais pour aussi bien sûr montrer sa pratique, montrer ce qu'il est capable de faire et vraiment essayer de bien traduire en fait le monde de l'artiste. La galerie va aussi essayer de trouver des expositions dans des musées, parce que c'est très important pour la cote aussi de l'artiste. Pour l'artiste, il va essayer de faire en sorte que l'artiste arrive dans les meilleures collections, privées, muséales ou les fondations.
Parce que ça lui apporte de la visibilité,
voilà,
c'est ça?
Oui. Okay. Oui. Il va aussi faire en sorte qu'il y a des livres qui sont écrits sur cet artiste pour documenter, pour faire en sorte que voilà, il y a plus de public qui va apprendre à connaître son travail. Et puis la galerie va aussi faire des foires d'art. Donc les foires d'art, il y en a différentes qui sont importantes partout dans le monde. Et ça va aussi faire en sorte que plus de monde vont apprendre à connaître cet artiste. Et j'espère que j'ai oublié.
Pour être concret, quand un tableau du coup est vendu, j'imagine que du coup il y a un petit pourcentage de commission qui part à la galerie,
oui,
et le reste à l'artiste.
Oui.
Ok. Et donc, vous avec Demain Art, donc quand vous avez décidé de fonder ça, il y a plusieurs éléments. Tu peux nous expliquer un petit peu les différents éléments du coup que vous vouliez faire différemment en fait de ce que tu avais vu de l'intérieur.
Oui. Donc nous, on veut être l'étape avant la galerie. Parce que, comme j'avais dit avant, ça prend 10 à 15 ans avant que l'artiste ait vraiment une représentation fixe. On veut être là pour aider les artistes aussi à faire le bon choix. Parce que souvent, ils ne savent pas qui sont les bonnes galeries, qui sont les bonnes institutions. Parce que, bien sûr, il y a aussi beaucoup de galeries qui sont moins bien. Et qui pour un artiste, c'est très important de faire les bonnes étapes pour son CV. Donc, on fait ça. Ce que nous, on fait aussi différemment, c'est qu'on est plutôt digital. On montre les prix. Donc, nous voulons rendre ça beaucoup plus accessible parce que Quand tu arrives dans une galerie, tu peux bien sûr demander les prix, mais il n'y a pas souvent une liste de prix qui est disponible. Nous, on montre tous les prix sur notre site. Qu'est-ce qui est aussi différent, c'est que si le client le souhaite, on l'emmène dans l'atelier d'artiste. Donc, il y a vraiment une rencontre avec l'artiste. Et avec ça, on veut retourner vers, dans l'histoire. En fait, avant, les collectionneurs étaient très, très proches de l'artiste. Et donc, ils connaissaient les artistes, ils les invitaient à la maison et tout ça. Et c'est quand même des connexions humaines qui sont importantes.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce qu'on fait aussi ? Nous, on travaille aussi seulement avec des artistes basés en Belgique. Donc, le local est très important. Donc voilà.
Et oui, parce que j'allais dire, effectivement, si vous proposez des gens à visiter l'artiste, vous ne pouvez pas représenter des artistes du coup, qui sont basés hors Belgique. Mm-hmm, quoi. Donc ouais. Vous limitez à la Belgique. La transparence aussi, ça c'est intéressant. Pourquoi est-ce que du coup, par exemple, dans les galeries, les prix ne sont pas spécialement affichés ? Est-ce que c'est juste, entre guillemets, administrativement, ils ne s'organisent pas pour ? Ou c'est une volonté express pour avoir des prix fluctuants en fonction de l'acheteur ou non ?
Non, c'est plus pour... c'est un peu ce monde de l'art qui est fermé, qui veut garder les choses un peu secrètes.
Oui, c'est ça, j'essaie un peu de comprendre, justement.
C'est pas que le prix change selon l'acheteur. Mm-hmm. Le seul truc qui peut changer, c'est en fait le discount que quelqu'un va avoir.
C'est-à-dire ?
Donc, quand on achète une œuvre d'art, sinon, si on a un client qui achète pour la première fois dans la galerie, on reçoit 10% de discount.
Okay.
Si le client est assez, voilà, c'est un bon client, c'est plutôt 15%. Et si le client a une fondation privée ou c'est un musée, c'est plutôt 20%.
Donc, c'est des réductions, c'est en des fait, réductions. Qui sont appliquées.
Par exemple, nous, chez Demain, on ne fait pas réduction pour personne. Parce que certaines personnes savent qu'on peut demander des réductions en galerie, mais des autres, personne ne le savent pas. Donc, ça aussi, on veut éviter que c'est... égal pour tout le monde et que voilà, donc les prix sont les prix, on négocie pas chez nous.
Et comment vous avez commencé ? Parce que pour commencer, il fallait avoir des artistes à représenter. Vous avez été chercher dans vos amis, dans vos connaissances ou comment ça s'est passé ?
Alors, on a commencé avec 5 artistes, on les connaissait tous. Okay. C'est des artistes dont on avait déjà acheté des œuvres, nous, personnellement. En fait, on a lancé en une semaine de temps. Donc, on a créé un Instagram, on a mis, des photos, des trucs sur notre Instagram, on a fait notre logo, et puis on a contacté ces artistes. Et en fait, en une semaine de temps, Demain a été lancé. Et donc, ça a été très vite. On est très instinctive, en fait, Diane et moi. Quand on aime quelque chose, on le fait et on préfère faire les choses à 80% que les faire à 100% et être trop tard. On aime bien, on aime bien être...
Fait est mieux que parfait.
Voilà, exactement. Ouais, ouais.
Et donc, vous êtes lancé, effectivement. Donc, du coup, ça ne vous a pas demandé, corrige-moi si je me trompe, pas grand-chose en termes d'investissement ou autre. 5 personnes qui disent « Ok, représentez-nous », entre guillemets. Un site internet, peut-être même pas encore tout de suite. D'abord, Instagram. Et puis quoi, concrètement, parce qu'aujourd'hui, on est quand même 2-3 ans plus tard, presque. Quelle a été l'évolution, tant en termes organisationnels qu'en termes de soutien externe potentiel ou pas ? Enfin, je ne sais pas comment ça s'est développé.
Alors, pendant un an, on a en fait fait Demain à côté de nos boulots. Donc voilà, vraiment en parallèle, ça se passait très bien. Mais après un moment, il y a Demain qui est devenu en fait trop grand. Donc j'ai dû vraiment faire un choix. Bien, je restais chez mon boulot chez Gladstone que j'aimais beaucoup, qui était très confortable. Ou bien je me lançais vraiment dans l'entrepreneuriat. Et je me suis dit que c'était une belle opportunité d'être entrepreneur et de tester l'aventure. Et que c'est, donc, j'ai décidé de faire ça. Je pense qu'après un an, on a seulement développé un site web. Et puis après, on en a dû en refaire un deuxième. Comment ça s'est développé encore ? On a continué à faire un rebranding, on a continué à se professionnaliser, à avoir une database. Mais en termes de financement, on est encore complètement autofinancé. Donc, on n'a pas de, on n'a pas de capital externe, ce qu'on aime beaucoup pour le moment.
Mm-hmm. Vous gardez le contrôle comme ça.
Exactement. Ouais. Depuis début janvier, on a maintenant notre premier employé à mi-temps, Florence. Également une
Florence également.
Qui nous a rejoint, qui est une très grande force aussi.
Parce que vos entrées, en guillemets financières, c'est la commission également. J'imagine que vous prenez simplement sur une vente. Quoi. C'est la seule source.
Oui, c'est la seule source.
Il y en a d'autres. Okay.
Oui.
Et donc, ça vous permet aujourd'hui, en guillemets, suffisamment pour juste tourner en fonds propres.
Oui.
Ok, et donc ouais, c'est déjà pas mal, c'est déjà une belle étape.
Oui. Oui.
Et quels sont un petit peu les projets dans le futur, là, concrètement, quels sont un peu vos next steps ou vos challenges que vous voyez?
Alors, ce qu'on développe fortement aussi maintenant, c'est vraiment faire une curation et vendre des œuvres d'art au sein des entreprises. Ça, on trouve très intéressant parce que souvent, les gens ont des magnifiques bureaux, mais ça manque d'une âme, ça manque de créativité. Et c'est aussi pour les employés ou pour leurs clients, c'est vraiment un élément pour commencer une discussion, une réflexion. On fait aussi en sorte que les artistes viennent dans l'entreprise pour vraiment expliquer l'œuvre d'art. Et pour l'entreprise, c'est aussi vraiment un soutien à la scène artistique locale. Donc ça, on trouve très important. Qu'est-ce qu'on développe encore? De temps en temps aussi, on fait des expositions physiques. Chaque fois dans des lieux un peu insolites, un peu différents. Donc là, pour le moment, on a une exposition dans ta ville natale, à Liège.
Ah oui, non, j'ai étudié à Liège.
Ah, t'as étudié à Liège.
Oui, j'ai étudié à Liège. Il y a une exposition là-bas.
Oui, à Liège, okay. Et de Grove Petercam dans leur bureau.
Ok, oui.
Donc, on fait quelque chose aussi à Knock avec eux.
Ok. C'est dans les bureaux d'entreprises privées,
oui.
C'est ça?
Oui.
Et du coup, c'est accessible aux employés uniquement ou également
non,
à l'externe?
À l'externe. Sous rendez-vous, les gens peuvent
d'accord.
venir voir l'exposition. Oui. Donc ça, on aime beaucoup aussi. Et voilà.
Donc, pour résumer un petit peu les différents, entre guillemets, services que vous proposez, il y a la vente en direct. Donc, si on va sur votre site, effectivement, j'étais sur votre site, on peut acheter plein de super belles œuvres d'art, que ce soit des tableaux ou même pas des tableaux. Il n'y a pas que des tableaux, hein, il y a aussi, il me semble, des créations un peu plus artistiques.
Des sculptures,
ouais. Donc, on va dire le citoyen lambda. Ensuite, du coup, l'entreprise, ça, c'est un autre service, entre guillemets, on est plus dans du professionnel. Il y a encore autre chose ou ça, c'est les deux piliers, finalement?
Ça, c'est les deux piliers. Et
okay.
En fait, il y a un troisième pilier aussi où on va vraiment aller faire du conseil. Donc,
okay.
Par exemple, si tu me dis, je viens d'acheter une maison et j'ai besoin d'œuvres d'art, alors on vient chez toi à la maison, on te fait des propositions, mais vraiment fortement adaptées. Parce que ça, c'est très important pour nous. Une œuvre d'art, c'est tellement personnel et on a vraiment besoin d'abord connaître la personne et de comprendre en fait ce qui est important pour cette personne, ce qui la touche.
Et comment vous vivez du coup la cohabitation avec les galeries existantes? Est-ce que c'est quand même une certaine concurrence ou pas du tout parce que vous jouez entre guillemets pas du tout avec le même public, la même gamme? Comment vous voyez ça?
Non, c'est pas une concurrence, c'est plutôt quelque chose de complémentaire parce que nous, c'est bien sûr le but que l'artiste trouve une galerie parce qu'au plus l'artiste trouve une galerie, au mieux que c'est pour nous en termes de qualité en fait de sélection. Depuis qu'on a commencé, il y a 8 artistes qui ont rejoint une galerie. Donc, c'est très chouette à voir quand on va à Art Brussels ou Art Antwerp, on les voit. Et c'est chouette pour nos clients aussi de voir qu'ils continuent.
Ils sont passés par chez vous, quoi.
Oui.
OK, donc votre objectif, c'est finalement que ce soit un tremplin, en fait.
Oui.
C'est pas les garder à tout prix chez vous.
Non.
Oui, c'est intéressant.
Ouais.
Alors que c'est vrai. Et du coup, ça permet un renouvellement aussi des artistes locaux. Une question qui me vient à l'esprit, c'est par rapport au budget, justement. Tu le disais, à un moment donné, tu as fait référence à ça. C'est vrai que je me suis déjà souvent dit aussi, OK, quand on n'a aucune idée, quel est le budget moyen, plus ou moins, pour un tableau pour un tableau, je ne sais pas, je ne connais pas les dimensions standards. C'est quoi les dimensions standards? Un truc 60 sur 60, un truc du genre?
Ça, c'est un peu petit, je pense. 1m20 de hauteur sur 80, quelque chose comme ça.
On va dire ça, 1m20 sur 80. Quel est le prix moyen, on va dire, pour un tableau? Tu vas me dire évidemment que ça dépend de beaucoup de choses, mais en moyenne, d'un artiste qui serait présenté dans une galerie ou un artiste plutôt encore émergent qui serait, par exemple, représenté par vous? Pour avoir un ordre d'idée.
Je pense qu'en fait... Si on peut dire grosso modo, par exemple chez nous, ça serait quelque chose 2 500 €. Et si ça passe en galerie, ça serait x2 ou x3, je pense.
Rien qu'au début, j'imagine.
Rien qu'au début. Oui. Donc,
Et le prix correspond à quoi? Parce que quand on ne connaît pas trop le monde de l'art aussi, on peut des fois avoir l'impression que certaines choses sont surévaluées. Je crois que sur le ton de la boutade, en s'appelant avant le podcast, je t'avais dit oui, tu te souviens, et tout le monde se souvient de cette peau de banane collée contre un mur qui tout d'un coup était valorisée à énormément d'argent. Ça représente quoi? Toi qui es vraiment dedans, tu connais le travail de l'artiste, quand on paye 2 500 €, on paye quoi finalement? Évidemment que c'est émotionnel, mais on paye quoi concrètement?
Alors, on paye le travail que l'artiste a mis dedans, donc vraiment ses heures de travail, mais aussi ses heures de recherche, de réflexion. Un artiste n'arrive, même s'il fait ce tableau en un jour de temps, c'est des années et des années de réflexion qui sont traduites en fait dans ce tableau. Donc on paye ça, on paye les matériaux, on paye son studio, on paye, comme je disais, toutes ces recherches.
C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours spécialement.
Voilà. On paye ses impôts aussi, il ne faut pas sous-estimer. Oui. En fait, il y a une grande partie qui part.
Ils sont indépendants pour la plupart.
Exactement, qui part dans les impôts.
Qu'un artiste, du coup, débutant, il sait vivre juste de son.
Non. Souvent, ils ont des mi-temps aux côtés pour pouvoir s'alimenter. Ouais.
Et à quel moment est-ce que, du coup, un artiste peut vivre vraiment uniquement de sa passion? C'est à partir du moment où il vend, 10 tableaux par mois? Enfin,
Ça dépend vraiment des prix de ces tableaux.
Évidemment.
Ça dépend de
oui. Est-ce qu'on peut parler, peut-être pour faire la comparaison, avec le monde du foot? Mm-hmm. Hein, peut-être que ça va parler à certains gens. Voilà, tout le monde veut devenir le prochain Cristiano Ronaldo ou autre, ou Eden Hazard. Mais on sait que c'est effectivement vraiment un pourcentage infime. Mm-hmm. Parmi tous ceux qui un jour voudront jouer au foot, d'atteindre entre guillemets le Graal à ce niveau-là. Est-ce que dans le monde de l'art, c'est un peu pareil, ou c'est plus facile ou encore plus compliqué, limite, de percer?
Je pense que c'est encore plus compliqué.
Encore plus compliqué.
C'est très très compliqué. Donc on voit bien sûr tous ces records dans les journaux et on voit tous ces prix-là, mais c'est tellement un tout petit pourcentage qu'en fait, il y a beaucoup d'artistes qui arrivent. Il y a une tellement grande masse d'artistes qui n'arrivent pas du tout à vivre de ça, malheureusement. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a créé Demain, pour faire en sorte que ces budgets-là sont alloqués aux bons artistes. Et comme ça, ils vont continuer à faire leur pratique, parce qu'on peut s'imaginer que si pendant 10 ans, tu ne vends rien, après un jour, peut-être que tu vas t'arrêter. Et ça serait très dommage, parce que vu qu'ils font des choses intéressantes et... Donc c'est pour ça aussi qu'on veut les pousser, que ça leur donne aussi beaucoup de confiance si on s'intéresse à eux.
L'art pour toi, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Parce que tu m'as expliqué que tu as toujours été à un moment donné passionné par ce monde-là. Tu disais, maintenant mes parents s'y intéressent aussi. Mais toi qui étais la première, un petit peu la précurseur dans la famille, qu'est-ce que ça t'apporte?
Moi, ça m'apporte beaucoup de... ça m'apporte en fait une émotion. Je trouve que quand tu vois une œuvre d'art, tu as toujours une première émotion. Et puis quand tu lis les informations, on t'explique, tu as une autre émotion, tu as un autre regard. Je trouve que l'art porte un regard sur le monde. Je trouve que l'art est vraiment une réflexion de ce qu'on vit. Les artistes sont en fait très précurseurs de ce qui se passe dans le monde. Ils sont beaucoup plus sensibles que nous, donc ils vont souvent refléter des choses que nous, on n'est même pas encore au courant. Par exemple, toute cette vague de LGBTQ, qui est maintenant, voilà, on en parle et tout ça, mais les artistes étaient tellement précurseurs, même avant que c'était, entre guillemets, des thématiques plus à la mode. Eux, ils étaient déjà occupés dans leur art à parler de ça, à nous sensibiliser sur ça. Donc, pour moi, l'art m'ouvre vraiment vers le monde, vers des autres cultures aussi que je connais pas, des problématiques politiques. Je trouve que l'art est vraiment un médium de communication qui est parfois beaucoup plus subtil que quand on écrit quelque chose ou quand on dit quelque chose. Il y a une sorte de poésie qui est quand même différente.
Oui, tout à fait.
Et je pense que si, même maintenant, au sein de ma famille, voilà, par exemple, ma maman, qui est ma plus grande coach dans ma vie, qui est une femme exceptionnelle, elle a aussi complètement maintenant cette passion pour l'art. Et c'est aussi un sort de partage, je trouve, entre mère et fille qui est aussi intéressant.
Et pas pour parler que ta maman, mais par exemple, ta maman, est-ce que c'est parce qu'elle comprend peut-être maintenant un peu plus les subtilités ou la finesse de ce qu'un tableau représente?
Oui.
Et peut-être pour faire le lien aussi également, je peux m'imaginer peut-être dans tes amis ou autres, des gens qui te disent, oui Florence, mais mettre 3000 euros dans un tableau, je préfère mettre 3000 euros dans deux iPhones que dans un tableau. Je ne sais pas, est-ce que peut-être tu as ce genre de réaction dans tes amis où ils sont tous déconvaincus de l'art? Et si tu devais avoir ce genre de réaction, qu'est-ce que tu dirais justement à ces gens-là? Parce que je pensais aussi, peut-être un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on connaît tous Ikea, hein, quand on va chez Ikea, quand on a besoin de décorer sa maison ou son appartement, on va chez Ikea. Et c'est vrai que les seuls tableaux, entre guillemets, qu'ils proposent, ce sont des photos à 10-15 euros. Et on se dit, oh, c'est joli. On se dit, ouais, 15 euros, ok, c'est pas cher. Ok, ça donnerait bien dans mon salon. Et puis, c'est vrai que si je vais voir chez un artiste, même qu'effectivement, les prix sont très, très abordables, comme tu dis toi-même, par rapport au monde de l'art, mais quand même, se dire, ah oui, mais 2000 euros, là, alors qu'entre guillemets, chez Ikea, j'ai une belle photo qui donnerait bien aussi, hein, qui coûterait 20 euros. Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? J'ai évidemment ma petite idée, mais je voudrais t'entendre. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à ces gens-là qui disent « Mais Florence, enfin, je vais chiquer, quoi. »
Oui, mais c'est aussi, je pense qu'il faut aussi avoir cette sensibilité envers l'art. Et c'est pas pour tout le monde, et tout le monde ne doit pas aimer l'art. C'est comme tout le monde n'aime pas boire un bon verre de vin, ou tout le monde n'aime pas... Donc, c'est aussi un hobby, et je pense que beaucoup de gens, en fait, voient l'art, et ils voient un tableau, et ils doivent avoir un peu... directement une sensation incroyable. C'est un peu ce problème, je pense qu'on est un peu dans ce sorte de capital du désir, et on est donc moi ce que j'aime bien, c'est qu'un tableau ait aussi une certaine profondeur, qu'on voit quelque chose de beau et intéressant, mais que ça évolue et que c'est pas juste beau, mais qu'il y a aussi une différente couche. Et je pense qu'il faut s'intéresser, que ça prend beaucoup de temps. J'ai vu ça aussi avec ma famille, ou même avec moi-même. En plus qu'on voit, en plus qu'on s'améliore, en plus qu'on... Et donc, quelqu'un qui a jamais vu un tableau et qui profite d'un tableau, ça va être complètement différent, ce même tableau, que si quelqu'un s'y connaît depuis longtemps, qui voit beaucoup de tableaux et qui... et pour moi, ce n'est pas nécessaire que tout le monde veuille acheter une œuvre d'art pour chez lui. Mais je suis sûre, si les gens prennent le temps de s'y intéresser, ils vont avoir beaucoup de bonheur, et ça va ajouter vraiment quelque chose à leur vie. Plus que le poster IKEA, je pense.
Oui, probablement. Effectivement, je pose évidemment la question de manière un peu provocante, mais j'aime bien ta réponse. Je ne m'y attendais pas trop à ce que tu me répondes ça, parce que plus je t'entends, plus je me dis, tu sais que sur le côté, je suis enseignant également, et donc former les jeunes au monde complexe qui nous entoure me tient fort à cœur, et je me dis quand même, est-ce que justement, est-ce qu'on fait assez en fait avec nos jeunes pour les sensibiliser à l'art? Parce que d'un côté, ce serait que j'entends que tu dis, ben oui, entre guillemets, c'est un hobby. D'un autre côté, c'est vrai que ça fait partie intégrante de la vie depuis toujours. Hein. L'histoire nous l'a bien montré. Et puis tout est art d'une certaine façon. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'effectivement, même en termes par rapport à nos jeunes, par exemple, est-ce qu'il faudrait les sensibiliser plus à l'art? Si oui, je ne sais pas comment. Peut-être que vous avez des pistes. Je ne sais pas, peut-être ici avec Demain Art, un jour, vous pourriez faire quelque chose, pourquoi pas. Ou non, ou tu dirais peut-être aussi, voilà, on peut sensibiliser, mais à un moment donné, voilà, c'est peut-être pas pour tout le monde, et il ne faut pas forcer tout le monde, effectivement, à vouloir être tout à fait, comment dire, ému par un tableau. C'est peut-être pas pour tout le monde.
Mais j'aime bien ce que tu évoques, parce qu'en fait, l'art, c'est quelque chose qui sera toujours là, et c'est en fait une trace de notre histoire. C'est les tableaux maintenant qu'on voit dans des grands musées et tout ça, ça nous raconte il y a 2 ou 3 siècles comment les gens vivaient, comment ils étaient. Et c'est vraiment ça, parce que l'art, comme je disais, c'est toujours une traduction de ce qui se passe en fait dans cette époque-ci. Donc l'art va rester. Beaucoup de gens qui ne voient pas le sens de l'art, je leur dis, c'est la seule chose qui va rester. C'est comme l'architecture, c'est des éléments qui sont pour moi très importants. Alors, point de vue éducation, en fait, c'est quand j'étais en humanité, j'avais des cours d'esthétique. Je ne sais pas si tu as eu ces cours.
J'ai eu des cours d'art, mais voilà, une heure semaine, ça ne représentait pas grand-chose.
Exactement. Et c'est cette prof qui m'a complètement motivée pour m'approfondir dans l'art. Donc, moi, je trouve que l'éducation a eu un rôle très important là-dedans. En fait, j'avais vu un tableau, on a vu en cours un tableau de Jackson Pollock. Et par hasard, 2 semaines plus tard, on allait à New York, et je disais à ma maman, je rêve d'aller voir le MoMA, qui est le plus grand musée au monde. Et on a quand même été voir cette peinture que j'avais vue dans mes cours. Ça m'a complètement changé ma vie. J'ai eu une telle émotion quand je suis sortie de ce musée, cette force, cette peinture, de ce drip painting. Et donc pour moi, je trouve que l'éducation a joué un très grand rôle. Et c'est vraiment grâce à ce cours que j'ai été introduite à l'art. Donc après, c'est comme tout. Si on a des profs qui sont exceptionnels, si une très bonne prof d'histoire, ça te passionne fortement. Après, si les profs sont pas bons,
Oui, ça c'est sûr.
C'est la responsabilité des profs.
Donc, appel à bien garder le cours de l'art, on va dire, dans le cursus de chaque élève. Pour peut-être encore aborder un autre sujet que je voulais aborder avec toi aussi, mais c'est, tu le disais toi-même, une fois qu'on est dans le milieu de l'art, tant du niveau professionnel que même en tant qu'acheteur, ça reste quand même facilement un monde entre guillemets de privilégié, parce que c'est pas pour tout le monde, il faut être connecté pour acheter aussi un tableau, ben voilà. Mais donc du coup je me dis ok, mais il y a toute une partie de la population qui arrive pas à boucler ses fins de mois, etc. Est-ce que ces personnes là peuvent également potentiellement être sensibilisés à l'art ou pas? Ce que je peux imaginer effectivement que c'est peut-être pas non plus pour tout le monde à ce moment-là, mais d'un autre côté, ce que j'entends aussi à travers ton projet de Ma Art, et c'est ça qui est magnifique, c'est que vous essayez de représenter des artistes et de les faire évoluer, et heureusement que vous êtes là, parce que sinon si j'entends bien, ben, ces artistes-là peut-être ben, ils n'y arriveraient jamais, parce que l'étape de passer tout de suite dans une galerie est beaucoup trop importante. Donc vous essayez de représenter des artistes, de les soutenir, et donc vous faites vivre l'art à ce niveau-là. Par contre, comment faire peut-être pour rendre l'art plus accessible, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a moyen de rendre l'art plus accessible financièrement? Alors je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, parce que je peux imaginer qu'un tableau à 2000 euros entre guillemets pour nous, okay, on travaille tous les deux, on a les études universitaires, on pourrait se dire okay, on peut s'acheter un beau tableau à 2000 euros peut-être et en profiter pendant 30 ans, mais non, c'est pas le cas de tout le monde. Est-ce qu'il y a moyen de sensibiliser les artistes, c'est une question peut-être un peu vague. Ma question finalement elle se résume à une seule chose: comment faire pour qu'il n'y ait pas que les privilégiés qui puissent en profiter? Oui, je crois que c'est plutôt ça ma question.
Moi je pense que c'est, en fait il y a pour ça il y a les musées qui ont un rôle très important à jouer. Parfois il y a des, bon bien sûr acheter un ticket musée ça continue à coûter de l'argent, mais il y a parfois des journées où c'est gratuit les entrées. Toutes les entrées des galeries sont aussi gratuites. Bah, je sais qu'il faut quand même avoir le courage en main, frôler la porte de la galerie, mais bon, ça, c'est quand même des éléments qui sont gratuits.
La plupart des galeries sont gratuites, du coup, en visite.
Oui, okay. Toutes les galeries sont gratuites.
Et on ne te regarde pas bizarrement si...
Oui, on te regarde bizarrement, mais on s'en fout. Okay. Il faut... Bon, au début, avant, quand j'étais plus jeune, et j'ai rentré dans la galerie, ils savaient très bien que je n'avais pas les moyens pour acheter, mais il faut avoir confiance en soi. Et en fait, je trouve que ça, c'est aussi le but d'un bon galeriste, c'est que tout le monde soit le bienvenu. Quelqu'un qui a de l'argent ou quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et tout le monde doit avoir une explication et il doit avoir des renseignements d'une manière respectueuse. Je trouve ça super important. Mais non, c'est vrai que voilà, il faut quand même encore toujours payer l'artiste. Il faut... ça reste... En fait, souvent, on ne voit pas, mais l'artiste, c'est son boulot, c'est son travail, et donc c'est son gagne-pain. Mais je pense que les musées organisent pas mal de choses aussi pour... Par exemple, de gens de quartiers défavorisés, il y a des journées, il y a des associations aussi qui s'occupent de ça. Mais c'est vrai qu'un jour, ça serait mon rêve d'essayer d'organiser plus de choses dans des milieux défavorisés pour faire en sorte que l'art est quand même plus accessible. Parce que même si moi, je viens d'un bon milieu et tout ça, même pour moi, c'était très compliqué de rentrer dans ce monde de l'art parce que je n'avais pas du tout des connexions. Je ne connaissais presque personne qui travaillait dans le monde de l'art. Donc même pour moi, c'était déjà compliqué. Donc je ne peux même pas m'imaginer comment c'est pour ces gens-là.
C'est ça. Mais donc ça, c'est un chouette... un chouette projet ou un chouette rêve, effectivement, de peut-être pouvoir d'une certaine façon... je sais pas, moi faire une exposition parce qu'elle a effectivement de Groove Peter Kam, c'est évidemment une super belle boîte, mais évidemment pas tout le monde va franchir les portes de Groove Peter Kam, mais donc ce sont des choses qui peuvent potentiellement se développer, si j'entends bien. Ouais.
Et donc si les gens ils veulent sur Instagram, on poste toujours quand il y a des expositions, donc ils peuvent toujours venir nous voir, même s'ils n'ont pas l'intention d'acheter, ils seront toujours les bienvenus.
Ok, mais ça on le notera et on le rappellera surtout en fin de podcast. Florence, le projet de Ma Art, déjà, est un projet, du coup, qui n'a pas vraiment de concurrence, entre guillemets. On est d'accord, en tout cas sur Bruxelles. Vous êtes lancés toutes les deux de manière assez, assez fonceuse. Et en 3 ans, déjà, du coup, vous avez déjà gagné, je pense, en notoriété et en reconnaissance par rapport au boulot que vous faites. Et justement, il a été récompensé aussi récemment par un award, par une récompense, pour le dire en beau français, le Bold Woman Future Award. Par la veuve Clicquot. Alors ça, j'espère que vous avez bien bu du champagne, au moins, si c'est la veuve Clicquot qui l'a organisé. Explique-nous un petit peu en quelques mots comment t'es arrivé à être nominé dans cet award et pourquoi peut-être, et qu'est-ce que ça vous apporte là aujourd'hui, peut-être en termes de visibilité, coaching, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Parce que c'est quand même une belle récompense, un beau prix que vous avez encore eu, outre le fait que tu es également membre des 40 under 40, donc les 40 jeunes en dessous de 40 ans qui d'une certaine façon s'engagent ou sont des entrepreneurs pour une Belgique meilleure. Donc ça fait pas mal de récompenses, mais surtout là où je voudrais un peu t'entendre, c'est sur celle de Veuve Clicquot qu'on connaît moins, que le grand public connaît moins. C'est quoi concrètement et qu'est-ce que ça vous apporte?
Donc en fait, le prix Veuve Clicquot, ça vient bien sûr de la Veuve Clicquot qui a repris en fait les rênes de l'entreprise de son mari une fois qu'il était décédé. Et dans le champagne, elle a fait beaucoup d'innovations en fait dans le champagne. Je pense que c'était la première dame qui a fait un grand cru dans le champagne. Aussi en termes plus techniques, elle a fait beaucoup d'innovations, donc c'était une vraie entrepreneur avant, je pense, au XVIIIe siècle. Et donc c'est un prix qui met vraiment à l'honneur les femmes qui sont audacieuses. Et pour nous, c'était un énorme honneur et aussi une reconnaissance que ce qu'on fait est intéressant et qui a un appétit pour ça. Et donc, ce qui est très chouette, c'est que cette année, on est dans le jury.
Ok, chouette.
Donc, il y aura. Là, je suis. En ce moment, je suis en train de lire les applications pour cette année. Donc, je trouve ça toujours fascinant de se plonger dans la vie de quelqu'un.
Et ce sont des gens, du coup, enfin, ce sont que des femmes, c'est ça?
Oui.
Qui sont entrepreneuses dans n'importe quel domaine.
Dans n'importe quel domaine. Donc, il y a deux catégories. Il y a le Bold Future Award, qui est une entreprise qui existe moins de 3 ans. Donc, c'était notre cas. Mm-hmm. Et il y a le Bold Woman Award, qui est vraiment celle de plus de femmes.
Qui a plus d'expérience.
Qui a plus d'expérience.
Déjà plus développée.
Qui est beaucoup plus développée. Donc,
Et donc, c'est surtout de la visibilité maintenant que ça vous apporte, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose derrière?
C'est de la visibilité, c'est la rencontre. On a eu beaucoup de chance. On a pu aller à Reims.
Ah oui,
découvrir la maison. On a eu un très chouette événement aussi à Paris.
C'est chouette. Surtout que je peux imaginer qu'il y a peut-être des synergies entre aussi ce que vous faites, le monde de l'art, puis le monde du champagne aussi, entre guillemets. C'est quand même un milieu, entre guillemets, pas privilégié parce que tout le monde boit du champagne, à un moment donné. Donc, est-ce qu'il y a peut-être aussi des synergies en termes de réseau? Peut-être aussi, ça peut vous apporter quelque chose, j'imagine.
Oui, clairement. Ils ont aussi créé le Bold Woman Database. Donc, en fait, c'est une database avec plein de femmes entrepreneuses partout dans le monde. Et j'ai, par exemple, j'ai un peu regardé, j'ai par exemple un rendez-vous semaine prochaine avec une femme que j'ai rencontrée là-bas.
Ok.
Donc, ça, c'est aussi intéressant.
Magnifique.
J'aime beaucoup ce type d'initiative. Et ce qui était intéressant, donc, on était à la remise de prix pour Bold Woman One France, et celle dans la catégorie plus 3 ans, c'est une femme qui est également active dans l'art, qui a également une plateforme avec des artistes. Le concept est un peu différent, mais c'est aussi dans l'art. Donc pour nous, c'était très intéressant que l'année passée, nous l'avons gagnée et elle aussi. Donc il y a vraiment.
Peut-être des synergies, même.
Oui,
parce que c'est vrai que. Une question que je vais te poser tout à l'heure, puis qui m'a échappé, c'est est-ce qu'éventuellement, c'est dans vos projets également d'aller au-delà de la Belgique avec Demain Art ou pas? Ou l'idée, c'est quand même de rester local, comme tu me l'expliquais?
L'idée, c'est de, à terme, créer la même chose, mais dans, par exemple, demain Paris, demain Italie, mais vraiment nouveau cet aspect local. Je pense que ce n'est pas le but de commencer à vendre quelque chose des artistes italiens ici en Belgique, mais vraiment recréer la même chose avec un réseau nouveau local, mais dans un autre pays.
Donc plutôt de manière décentralisée, un petit peu comme des franchisés,
exactement,
entre guillemets.
Ouais.
Ok, parce que donc, aujourd'hui, donc, ce sont des artistes belges, vous vendez que à des Belges ou même à l'étranger? Quelqu'un qui va sur votre site qui est basé en Angleterre pourrait également acheter...
Donc en fait, c'est des artistes qui sont de partout, qu'on représente, mais ils sont basés en Belgique.
D'accord.
Donc on a beaucoup d'artistes français, par exemple. On a des clients à l'international, mais bien sûr, la majorité, c'est la Belgique. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est que les Belges achètent en Belgique, parce que comme ça, il y a beaucoup moins de transport. On doit moins emballer les œuvres d'art, donc il y a moins de plastique, on ne doit pas créer des caisses pour les envoyer au Japon. Donc aussi, d'un point de vue plus écologique, c'est quand même plus avantageux.
Donc c'est win-win à tous les niveaux à ce point de vue-là. Une question que je pose souvent aussi, c'est la question de l'optimisme, mais tout à l'heure déjà je te le disais en rigolant un peu, tu es assez positive et optimiste. Peut-être deux questions, est-ce que tu l'es toujours optimiste? Quand tu l'es pas, qu'est-ce que tu fais pour le redevenir, entre guillemets? Comment tu gères un petit peu peut-être les moments plus difficiles dans ton parcours, que ce soit passé aujourd'hui?
Donc j'ai une phrase que j'aime beaucoup et que j'essaye d'appliquer, c'est « le bonheur, c'est une décision qu'on prend le matin ». Et donc j'essaye vraiment de prendre le temps le matin pour poser les bonnes bases pour la journée. Donc maintenant je suis dans un 30 days yoga challenge.
Ok, c'est-à-dire tu fais du yoga pendant 30 jours?
Pendant 30 minutes chaque matin.
Ouh là là. T'as commencé quand?
J'ai commencé à 25 jours, donc presque à la fin.
Ah oui, quand même.
Waouh. Donc oui, c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est pas non plus évident chaque jour. Donc il y a vraiment des hauts et des bas. Mais ce qui m'aide beaucoup, c'est d'écouter des histoires d'autres entrepreneurs. Et on sent que même si dans les journaux, on voit les beaux résultats, les trucs, on voit derrière que pour chaque entrepreneur, c'est la même chose. Il y a des doutes, il y a des challenges, il y a des problèmes, il y a des... donc voilà, je pense qu'il faut essayer de relativer, il faut faire son possible. Et si, voilà, si un jour ça ne marche pas, il y aura bien les autres opportunités, il y aura des autres choses à développer. Et donc voilà. Je pense que...
Oui, c'est quoi donc la décision du bonheur se prend le matin? Non.
Le bonheur, c'est une décision qu'on prend le matin.
Écoute, je crois que tu suis depuis pas longtemps notre page Instagram. Ça sera une citation qu'on reprendra volontiers dans les citations du lundi, parce qu'on met tous les lundis une petite citation positive pour un petit peu motiver les gens, parce que souvent les lundis, c'est un peu plus compliqué pour certains. Mais très, très belle citation, je fais le lien du coup avec les moments... avec ce fait de prendre cette décision-là, ok, d'être... d'être plus positive, mais qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui? Quelles sont tes sources d'inspiration plutôt? Car comme tu le dis toi-même, être entrepreneur, c'est pas tous les jours facile, il y a des moments de doute, il y a des moments qui sont plus compliqués. Est-ce qu'il y a comme ça deux, trois choses qui t'inspirent ou des personnes qui t'inspirent qui font que tu tiennes ta direction, quoi?
Je pense que c'est en grande partie les artistes qui m'inspirent. Donc, parce qu'ils sont tellement passionnés, ils ont pas... Être artiste, c'est vraiment... C'est pas vraiment un choix, on est né artiste, je pense. Donc je pense être passionné, c'est important. Et je pense que si juste en général trouver sa passion et vraiment aimer ce qu'on fait, je pense qu'on arrive beaucoup plus loin. Et aussi sentir que je pense que ce qui nous passionne aussi, c'est de vraiment qu'on sente qu'on a une valeur ajoutée en fait dans le marché de l'art et qu'on a une approche complètement différente.
On est artiste. Du coup, est-ce que toi, t'as déjà pensé toi-même à être artiste ou tu l'es pas du tout, ou tu es plutôt sensible?
Oui, non, je le suis.
En tant que spectateur,
alors,
on va dire.
Alors, je ne le suis, mais vraiment pas du tout. Et donc, du coup, j'ai encore beaucoup plus de respect pour les artistes qui le sont. Moi, je dessine encore un visage comme Smiley. Donc, moi, j'ai vraiment aucun talent artistique et c'est pour ça que je les admire.
Ok,
tellement.
Et c'est quelque chose que tu ne fais pas du tout? Même
pas
pour,
du tout.
Pour te détendre, non. Peindre un petit peu,
non.
Vraiment pas?
Non.
Ah, donc, tu es vraiment une fan.
Oui,
voilà.
Je suis quelqu'un avec très, très peu de patience. donc je n'ai aucune patience pour me mettre avec une feuille
Mais c'est incroyable parce que finalement observer une œuvre d'art et l'admirer, c'est avoir une patience d'une certaine façon. Donc ouais, je trouve ça drôle du coup parce que je t'ai persuadé, je me dis probablement que tu es quelqu'un qui de ton côté aussi fait des petits tableaux.
On est artiste. Je pense que c'est très très rare des galeristes qui peignent un peu ou qui sont je pense que c'est très rare parce qu'en fait les artistes font un tellement bon boulot que je verrais pas du tout ce que je pourrais ajouter à ça.
Incroyable.
Je préfère faciliter leur travail et faire en sorte que leur travail se vende.
Faire toi là où t'es forte, on va dire, hein, mettre tes talents en avant.
Exactement.
Et eux, ils font leur boulot, quoi.
Voilà, je trouve ça intéressant de se focaliser sur ce qu'on fait bien. Et souvent, c'est vrai que par exemple à l'école, on se focalise sur souvent ce qu'on n'est pas bien.
Oui, tout à fait.
Et donc moi, j'ai l'impression qu'on devient tous des généralistes et ce que je trouve important, c'est de vraiment faire ce qu'on aime, faire ce qu'on est bien, se spécialiser là-dedans et être différent des autres et pas tous faire la même chose.
Ah, c'est beau, ça. Qu'est-ce qui te désole le plus dans notre société?
Moi, je pense que c'est parfois une sorte de négativité. Je pense que aussi... Être entrepreneur, c'est pas toujours vu comme le meilleur boulot, comme le... et je pense que parfois, les gens ne se réalisent pas, en fait, quel investissement, c'est aussi personnel. Je pense que, on célèbre beaucoup...
Les victoires,
les mariages, les naissances. Mais moi, je trouve que ça serait génial si quelqu'un... commence son entreprise, qu'on fait un launch company party et que tout le monde donne un peu d'argent à cette personne pour que pour stimuler, pour
c'est pas mal,
et
ça,
pour
comme
encourager
idée.
Donc j'essaie vraiment quand il y a des amis qui lancent des choses d'une manière plus entrepreneuriale de les soutenir là-dedans parce que c'est tellement dur au début, il faut avoir tellement de force intérieure
Est-ce que tu es coachée par exemple par quelqu'un dans cette aventure? Tu disais ta maman.
Oui, donc ma maman,
c'est ta première coach.
Ma maman, c'est une de mes plus grandes coachs. C'est vraiment quelqu'un qui est complètement différent que moi, mais qui a des autres visions et qui m'apporte énormément. J'ai eu une très bonne coach quand je travaillais chez Gladstone. Et là, pour le moment, je n'ai pas de coach, mais je suis à la recherche d'un coach. Donc, si quelqu'un veut m'aider, avec grand plaisir.
Ok, mais on en parlera. cette partie-ci, donc là, on a un peu parlé, voilà, de ton, on va dire, ton état d'esprit, comment tu gères un petit peu les moments plus difficiles, etc. Une question que j'aime toujours poser aussi, avant de tout doucement arriver vers la fin du podcast, c'est si je te donnais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le monde? Donc une question un peu plus générale, ça peut être en lien avec l'art, milieu que tu connais bien ou pas du tout. Tu as une baguette magique, quelle est vraiment la chose que tu essaierais de changer?
Oh, y a tellement de choses à changer, je trouve ça une question très compliquée.
Mais malheureusement, je ne donne toujours qu'une seule baguette.
Moi, je pense que, bon, je vais l'appliquer sur l'art. Probablement que tout le monde va se dire que c'est le moins important qui soit, mais bon, c'est mon secteur. Moi, je pense que l'art doit nous avoir une place beaucoup plus centrale dans nos sociétés. Je pense que l'art, c'est toujours la première chose qu'on va enlever les budgets, réduire. Mais je pense qu'on sous-estime pour le mental des gens, en fait, le bien que ça peut faire, certainement dans nos sociétés, en effort. Il y a beaucoup de gens qui sont déprimés, il y a beaucoup de gens qui se sentent plus au sein de ces sociétés. Je pense que l'art peut vraiment être un acteur pour mettre les gens en connexion, pour faire que de mettre différentes personnes à la table, de créer des discussions. Je pense que l'art peut apporter beaucoup de bien. Et je pense que au sein de nos sociétés, c'est pas réalisé aussi que les artistes ont une place plus importante. Et qui sont plus inclus aussi dans le débat. Je ne sais pas si...
Non, mais clairement, mais j'ai envie d'enfoncer un peu la porte ouverte. Plus concrètement, qu'est-ce que tu penses qu'ils pourraient apporter? Tu dis les inclure dans les discussions, tu veux dire dans la résolution de nos problèmes de société. Qu'est-ce qu'ils pourraient apporter, justement, peut-être ce regard précurseur dont tu parlais? Ou est-ce qu'il y a autre chose
Oui, ce regard précurseur, comme je disais, comme avant, c'est l'art, on arrive à passer des messages qui sont parfois plus subtils, mieux formulés que si on va le dire par parole.
Oui, tout à fait, ou par écrit.
Je pense que l'art aussi fait en sorte qu'on peut, comme je disais, qu'on peut comprendre des autres cultures d'une meilleure manière, qu'on peut avoir plus de respect aussi pour certaines cultures, pour certaines personnes qui viennent peut-être de milieux différents ou qui ont des visions différentes.
Est-ce que toi, il y a un tableau en particulier que tu adores ou pas du tout? Est-ce qu'il y a quelque chose que quand tu regardes, tu es déprimé, tu le regardes ce tableau ou cet artiste et tu dis « Ah, là, je me sens mieux ».
Ça, c'est très compliqué.
On te pose souvent cette question.
On pose tellement de questions. Si tu veux un tableau, c'est lesquels? Mais il y a
une expo, qui t'inspire en particulier.
Il y a une expo que j'ai vue récemment en octobre à Paris, qui était l'expo de Joan Mitchell et Monet.
Ah oui.
Et Joan Mitchell, pour moi, c'est une des artistes qui me fascine le plus.
C'est une artiste contemporaine ou
Non, c'est une artiste qui est décédée maintenant, qui fait partie des abstracts expressionnistes à New York dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, 60. Et qui, c'est des œuvres qui sont très abstraites et on a l'impression qu'elle met son coup de pinceau. Que ces traits sont aléatoires, mais en fait, quand on est devant un tableau, c'est tellement juste, c'est tellement dans son étude de couleur, dans son étude de composition, et c'est des tableaux qui sont tellement, tellement forts pour moi, et ces tableaux qui rend beaucoup d'émotions et qui embellit vraiment la vie. Et c'est,
Ah ben voilà, donc on l'aura trouvé.
Mais bon, ça c'est une des artistes.
Une des artistes. Ouais. Mais heureusement que dans le boulot que tu fais, tu as la possibilité de te nourrir tous les jours d'artistes et de styles différents. Magnifique. J'aimerais peut-être encore rebondir effectivement là-dessus. C'était ma volonté d'ailleurs aussi justement d'avoir ce podcast. Parce que ça faisait un petit temps, je t'avais dit que je pensais avoir cet entretien. Et puis c'est vrai que quand on ne connaît pas bien le sujet en tant que podcasteur, je te dis l'art, c'est toujours un sujet quand on ne connaît pas trop, je me demandais un petit peu ok mais comment l'amener, et puis je me suis dit mais en fait il faut justement Également, et là je pense que je te rejoins, il faut justement mettre beaucoup plus en lumière un domaine comme l'art, parce qu'effectivement, même sans être un grand initié à l'art du tout, je me rends bien compte que ça fait partie intégrante de notre fonctionnement et de notre société depuis toujours, et que même, moi des fois je peux admirer un tableau dont je comprends rien, mais je l'admire et ça m'apporte une paix intérieure, et donc je peux clairement rejoindre ce point de vue, dire l'art peut effectivement et doit même faire également partie intégrante de notre société et peut aussi amener à son échelle, on va dire, un petit peu un impact positif sur la société. Parce que toutes les personnes qu'on a interviewées jusque maintenant, c'est chaque fois des projets très différents. Ça peut être dans l'enseignement, l'agriculture, le business, mais l'art, justement, on n'en parle pas assez, en fait. Mmh. Et aussi, alors ça, c'est peut-être pour ma part, et peut-être que tu as eu cette impression-là aussi en voulant te lancer dans l'art. Et c'est vrai que tu l'as un peu dit, que c'est un monde très fermé, donc c'est rare aussi de rencontrer finalement des gens qui s'y connaissent bien et qui ont envie de partager, parce que souvent c'est un peu de l'entre-soi traditionnellement. Et donc on a eu l'occasion du coup d'en parler longuement avec toi. Pour terminer ce podcast, je pense que tu seras très, très apte également à répondre à cette question. C'est qu'on a souvent l'impression qu'en tout cas beaucoup de gens de notre entourage, tout le monde a envie que des choses changent, qu'on lance une plateforme pour des artistes, qu'on lance une nouvelle type d'école, qu'on fasse ceci ou cela, mais passer à l'action semble quand même encore souvent compliqué. Les gens restent quand même souvent facilement dans la plainte, entre guillemets. Toi qui t'es lancé, alors ok, c'est peut-être pas pour tout le monde de se lancer comme ça les yeux fermés, entre guillemets, mais quel serait un petit peu ton conseil à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de changer des choses à leur niveau, que ce soit lié à l'art ou pas du tout? Quel serait un peu ton conseil, on va dire, d'entrepreneuse maintenant depuis 3 ans à ces personnes-là?
Moi, je pense qu'il faut croire en soi et qu'il faut juste le faire. Il faut just do it, the Nike. Je trouve c'est encore un des quotes qui est exceptionnel. Je pense qu'il faut être soi-même et pas essayer d'être quelqu'un d'autre et vraiment croire dans ce qu'on aime bien, ce qu'on fait. Et je pense que si on est passionné, on va y arriver et on va faire des bonnes choses. Je pense qu'il faut pas, par exemple, mon exemple, quand j'essayais d'être dans banque d'investissement et tout ça, c'est pas du tout mon caractère. J'arrivais pas à me mettre dedans parce que c'était pas
T'étais pas à ta place, quoi.
J'étais pas à ma place et maintenant je suis beaucoup plus à ma place. Et peut-être que je sais pas, je fais un boulot qui est très différent de banque d'investissement. Et là, je suis vraiment à ma place. Et donc, du coup, quand on fait quelque chose avec passion, on le fait beaucoup mieux. On va peut-être travailler plus. On va plus s'approfondir dans le sujet et on va essayer d'aller beaucoup plus loin. Et je pense surtout qu'il faut pas trop réfléchir et qu'il faut juste le faire. Et je pense que beaucoup de gens, ils ont des idées, ils en parlent, mais ils le font jamais. Et moi, je pense que...
Qu'est-ce qui, toi, t'a donné ce déclic de dire « lance-toi » Parce que c'est quand même pas facile non plus. Tu dis tu quittes un job avec un salaire derrière, etc., pour quelque chose de plus ou moins inconnu.
Oui, mais je suis très instinctif comme personne. J'aime bien prendre des risques dans la vie. Je me dis, si maintenant, demain, ça ne marche pas, mais il y aura des autres opportunités. Je pense que si dans la vie, si on est impliqué, on est passionné, on travaille dur, je pense que ça arrivera. Mm-hmm. Et si ce n'est pas avec cette société, ben, ce n'est pas grave. Il y en aura peut-être une deuxième ou un nouveau boulot. La vie a fait plein de rebondissements et il faut saisir les opportunités, mais surtout, il faut faire. Voilà.
Magnifique, Florence. Tu transpires même à travers le micro. J'espère que toutes celles qui nous écoutent, ton sourire du début à la fin, ton optimisme plus que contagieux. Je le suis déjà moi-même de nature, mais alors là, c'était très très chouette de t'avoir, Florence. Merci beaucoup pour le temps accordé, pour l'authenticité de la conversation. Ce que je te souhaite, c'est de continuer à développer Demain Art tel que tu le fais, et également dans la mesure du possible, effectivement, essayer d'ouvrir les yeux même de jeunes, de milieux peut-être plus précarisés ou précaires à l'art, parce qu'effectivement, je pense que c'est quelque chose, comme tu le dis toi-même, qui devrait être beaucoup plus accessible à tout le monde. On devrait beaucoup plus pouvoir être sensibilisé à ça, sans pour autant, effectivement, devoir chacun d'entre nous acheter un tableau à mettre à la maison, même si ça fait quand même partie de mes plans. Je vais mettre un peu de côté. Et puis, regardez ton site web, c'est demainart.com. Pour tous ceux qui nous écoutent, demainart.be.com. Demainart.com. Vous avez également une page Instagram, c'est ça?
Oui.
Et Facebook?
Oui.
Parfait.
Donc, écoute, voilà.
Florence, je ne sais pas si tu as encore un dernier message à faire passer.
Non, je voulais te remercier pour cette belle discussion. Pour moi, c'était un réel plaisir et honneur d'être sur Positive Changemakers.
Avec grand plaisir. À très bientôt.
Merci.
Et c'est déjà la fin de ce 14e épisode du podcast Positive Changemakers. Merci à vous de continuer à nous suivre, d'être toujours de plus en plus nombreux. Merci également de continuer à nous faire part de vos retours, de votre feedback, que ce soit via email, les réseaux sociaux, notre site. Ça me fait toujours très très plaisir de lire vos retours. Alors cet épisode était le dernier de la saison 2, car la saison 3 est en pleine préparation et vous réserve quelques changements et surprises. Donc continuez bien à nous suivre pour être sûr de ne rien louper. Moi je vous dis à très vite. Ciao.